I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Et aujourd'hui, je ne ferai pas les accents parce que voilà, j'ai décidé que c'était comme ça. Je suis Patrick Béja et juste à côté de moi, là, genre juste là, je tends ma main et je le touche presque, mais il veut pas, donc je vais arrêter. C'est Johan. Salut Johan, comment ça va ?
Salut Patrick, eh ben ça va super bien. Je suis en long week-end ce soir là.
Non, mais attends, mais on est mardi. T'es en long week-end à partir de
je suis
mercredi.
En très long week-end. Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que en plus de ça, genre ta femme va prendre ta fille quelque part loin et que tu vas être tout seul ?
Alors non, mais ma fille continue d'aller à l'école, donc ça reste une fin de semaine agréable.
D'accord. Ah, loin de ses enfants, bonheur. C'est ça, en fait, le vrai...
Ouais, pour y arriver, il faut avoir des enfants pour pouvoir en être loin, tu vois, sinon ça marche pas.
C'est pour ça qu'on veut des enfants. C'est pour, tu sais pas... Est-ce qu'il vaut mieux être ignorant et... C'est quoi le truc ? Ignorant et heureux ou savoir des trucs et être malheureux ? Bah là, tu as les enfants, mais tu sais que c'est un petit peu gênant, handicapant d'avoir des enfants. Mais quand ils sont pas là, c'est le bonheur. C'est ça. Mais non, mais on les adore, nos enfants, comme Obi-Wan Kenobi et Leia Organa. Tu vois, c'est un peu la même chose. Oui. Et puis après, on est bien content de les rendre à ceux qui s'en occupent, comme les gens qui sont, tu vois, les profs à l'école, par exemple.
Bah oui, les professionnels, parce que c'est pas facile. Il faut,
bah oui, voilà. Oui, c'est un vrai métier. C'est
un vrai métier.
Comme on le voit dans Obi-Wan Kenobi, il finit par y arriver quand même au bout du compte. Même si les deux derniers épisodes, c'est pas tellement la relation Obi-Wan et Leia qui nous préoccupe, c'est plutôt la relation Obi-Wan Anakin. Et du coup, ce dont on va parler aujourd'hui, bah c'est ça, c'est les deux derniers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi, dans lesquels pardon ?
Les trois derniers même.
Les trois derniers ? Ah merde ! C'est pour ça que ça fait... Je me souvenais plus des trucs. Ça fait si longtemps qu'on n'en a pas parlé.
Eh ouais.
Ouais. Mais tu as raison. Les trois derniers, du coup, Obi-Wan Kenobi, part 4, 5 et 6. On en discutait un petit peu avant de lancer l'enregistrement et on se disait, non, attends, on arrête, on commence l'enregistrement parce qu'il y a des trucs qu'on devrait dire aux auditeurs. Qu'est-ce que tu étais en train de dire, toi, Johan ?
Bah, j'étais en train de dire que c'est un peu confus, cette dernière moitié-là. Moi, je ne suis plus capable de dire, en fait, ce qui est dans l'épisode 3, 4 ou 5. 3, 4, 5, 6.
4, 5, 6, ouais.
4, 5, 6, voilà. Parce que, du coup, j'ai l'impression que, finalement, les enjeux... Oui, c'est ça. En fait, les enjeux se sont aplatis en fait dans cette deuxième moitié. C'est-à-dire qu'on espérait des choses et finalement, je sais pas. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment globalement. J'ai continué à trouver ça chouette à regarder, mais un peu passivement en fait. On reste tellement en fait dans du Star Wars tel qu'on le connaît depuis maintenant super longtemps. C'est très classique. C'est des thématiques qu'on a déjà quand même vues super fréquemment dans les Star Wars. Il n'y a rien qui vient nous secouer comme l'avait pu le faire Mandalorian, en fait. Et du coup, je sais pas, moi, j'en suis sorti en disant vraiment web off, et puis sans vraiment réussir à me rappeler ce qui s'était passé dans ces dernières moitiés-là. Et puis au fil du temps, ça s'est assez vite estompé quoi, par rapport à d'autres séries quoi, dans ma mémoire.
J'avoue que moi, c'est un petit peu pareil. J'irais même jusqu'à dire que plus j'y pense, j'en suis ressorti, je me suis dit... Ouais, ok, c'était sympa, c'était un bon moment, tu vois, je me suis pas ennuyé, voilà. Et plus j'y repense, plus je me dis, Mais en fait, c'était quand même pas terrible, quoi. C'était, y a un gros potentiel, évidemment, avec l'histoire, non seulement d'Obi-Wan Kenobi et le choix qu'ils ont fait d'impliquer Leia assez, de manière assez importante dans l'histoire. Il y avait quand même un potentiel d'en faire quelque chose d'intéressant. Là, après la première moitié, bah, Leia, elle est toujours là, mais elle a vraiment plus aucune importance. Il n'y a pas de progression du personnage, il n'y a pas d'action décisive ou d'apprentissage de ce qu'est de faire partie de la résistance. Alors oui, on peut dire oui, elle a fait partie de The Path et ça l'a influencé pour mener la résistance ensuite, mais il n'y a pas de truc impactant. Et puis, il y avait un énorme potentiel avec Anakin et Obi-Wan qui est un petit peu plus exploité, je dirais, de la même manière que c'est intéressant de voir Leia dans la première moitié, c'est intéressant de voir Anakin et Obi-Wan dans la deuxième, mais ça reste relativement léger. Et du coup, au final, moi, plus le temps passe, bon, bah là, le dernier épisode est passé, a été diffusé mercredi dernier, donc ça fait un peu moins d'une semaine, plus le temps passe, plus le temps passe, moins j'aime, en fait. À chaque jour, je me dis, ouais, bon, bah, ok, d'accord, c'était moyen, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai tweeté un truc sur Star Wars il y a quelques jours de
le
ça.
Le cycle ouais. Star Wars.
Ouais, tu l'as vu.
je suis assez d'accord, en fait.
Hein. En fait, ce que je disais, c'est que le cycle de Star Wars, c'est qu'on voit notre Star Wars de notre génération quand on est enfant. Et on trouve ça génial, c'est incroyable, c'est super bien, c'est trop cool. Et puis, on devient adulte. Et puis, on voit les Star Wars de la génération d'après. Et on trouve ça super moyen, limite chiant, limite... vraiment, c'est fait pour les enfants, quoi. Et puis, à partir de là, soit on se rend compte qu'en fait, tout Star Wars est comme ça, mais tout, vraiment, à de très, très rares exceptions près, soit bah, on continue à le nier, on est happé par le côté obscur, et on pense que non, c'était mon Star Wars qui était bien, et ceux des autres, c'est des trucs pour enfants ridicules. Et c'est vraiment un truc qui, à mon avis, se confirme et se répète. Alors, je ne dis pas que tous les Star Wars sont mauvais. Si on prend l'Empire Contre-Attaque et surtout les derniers Jedi, moi, je le trouve incroyable, les derniers Jedi. À de nombreux égards, tout est pas à garder, mais il y a quand même un courage dans ce film qui est plus que louable. Mais à part ça, tu parlais de Mandalorian tout à l'heure. Mandalorian, c'était vraiment cool. Objectivement cool, j'ai trouvé, quasiment du début à la fin, mais tout le reste, c'est tellement de ressasser, tellement... Et puis ça bouge pas, ça fait du surplace, quoi. Ils ressassent des trucs, et alors là, évidemment qu'on n'allait pas tout à coup transformer le canon de Star Wars pour dire qu'il s'était passé autre chose entre Anakin et Obi-Wan. À la limite, pourquoi pas, ils auraient pu, mais bon, ou ils auraient pu le faire de manière intelligente pour que ça recolle quand même plus ou moins avec le début de... A New Hope et que ça tienne, quoi. Mais même dans ces contraintes, je pense qu'il aurait été, possible de faire quelque chose de vraiment intéressant. Et là, il n'y en a pas énormément. C'est pas... On entend les oiseaux, hein, mais t'inquiète pas, t'es pas obligé de te muter. C'est champêtre. Généralement, c'est chez moi qu'on entend les oiseaux. Là, ils viennent de chez toi. Je sais pas si on les entendra au montage parce qu'il y a un noise gate, mais moi j'entends les oiseaux de chez Yohan, c'est charmant.
C'est mon lieu de travail. Hein,
c'est ça.
C'est très bien. Ouais, donc du coup, je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que moi, Star Wars, alors du coup, moi, les Star Wars de mon enfance, c'est quasiment, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. Les deux premières trilogies, j'étais voilà, encore relativement jeune. Et j'ai constaté au fur et à mesure des œuvres qui sont sorties après que bah, chaque nouvel épisode, j'aimais pas, que ce soit dans différents formats, etc. quoi. Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, bah, voilà, peut-être que c'était plus pour moi. Et en fait, le nœud de la frustration pour moi de cet état de fait, de ce cycle Star Wars que t'as décrit, c'est que Star Wars a un univers ultra riche. Ultra riche, vraiment ça fourmille de plein de choses, t'as toute une mythologie qui se construit et derrière bah, les narrations sont pas au niveau en fait de cette mythologie là. Moi j'ai exactement le même sentiment typiquement pour World of Warcraft où je suis absolument fan du lore et de tout voilà l'histoire du monde, les dieux, les créations, les races, etc. Enfin tout ça quoi. Mais dès que je suis dans le jeu et que Blizzard me raconte une histoire avec cette mythologie-là, je roule des yeux. Je dis que c'est mal écrit. Enfin, tu vois, et c'est un peu, et j'ai un peu ça pour Star Wars aussi, quoi. C'est-à-dire que je suis super fan, en fait, de tout cet univers, de tout, voilà, de la religion Jedi, de tous ces trucs-là. Mais dès qu'on essaie de me raconter des histoires, en fait, je trouve ça, voilà, pas top. Je trouve que
mal foutu, mal fagoté.
Ils essayent toujours justement de se raccrocher à ce que eux pensent qu'il y aura du succès. Et du coup, ça fait appel à des personnages connus. Bon, là, c'était Obi-Wan Kenobi, donc j'ai du mal à leur en vouloir d'utiliser des personnages connus. Hein, je vais pas leur faire ce reproche-là ici. Mais globalement, même ici, en fait, on sent que, bah, tu vois, finalement, Dark Vador a pris une place gigantesque qu'il n'avait pas forcément au tout début. Bon, forcément, que Dark Vador hante Obi-Wan et tout, c'est tout à fait normal et ça fait partie du personnage, mais finalement, c'est devenu quelque chose de très très central et en abandonnant peut-être des axes qui auraient pu être un peu plus frais, un peu plus, tu vois, un peu qui s'écartent un peu plus de ce qu'on connaît, quoi.
Ouais.
Et finalement, là, en fait, on a une redite de finalement de cette fin
de l'épisode 3, quoi.
Oui, exactement, c'est ça. C'est une redite avec un angle un peu différent, avec le temps qui est passé et puis le lâcher prise. D'Obi-Wan là-dessus, mais et du coup c'était quand même une scène forte. Moi j'ai trouvé cette scène quand j'étais devant, j'avais un petit peu des frissons, quoi. C'était l'écriture est bonne, etc. Mais voilà. Quoi.
Je pense que le dernier épisode est celui qui est assez unanimement considéré comme le meilleur et celui qui est assez justement, je parlais d'impact, c'est celui qui a quand même un petit impact. Ouais. Pour revenir sur la richesse de l'univers de Star Wars, je suis pas, évidemment, je vais pas dire le contraire, mais je trouve que c'est un petit peu surfait parce que c'est quand même une transposition médiévale, enfin une transposition science-fiction de quelque chose de très classique au niveau médiéval, tu vois. C'est alors oui, il y a de la richesse, il y a du c'est des chevaliers avec des épées qui font de la lumière. Et c'est à peu près tout. Il y a une caste intéressante, et il y a du machin. Et je ne trouve pas que ça soit un univers qui soit... Comment dire ? Il est intéressant, je suis d'accord, mais il n'est pas incroyablement original, au-delà du fait que tout est dans l'espace. Je suis sûr qu'il y a des exemples de trucs qui se passent dans l'espace qui sont beaucoup plus originales et intéressants que enfin, bon, je ne vais pas me partir dans les comparaisons, ça ne serait pas forcément à propos. Mais oui, Star Wars, sa force, c'est clairement son lore, je suis d'accord. Il est très mal, souvent mal exploité. Et c'est pour ça que moi, je suis un petit peu comme toi, frustré d'avoir ce retour permanent au carcan de la tradition de Star Wars. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'épisode 9 m'a tellement déçu. L'épisode 9, il a quand même réussi à décevoir tout le monde. Je crois que à la fois ceux qui aimaient l'épisode 8 et ceux qui l'aimaient pas ont détesté l'épisode 9, donc personne n'était content. Mais pour moi qui aimais l'épisode 8, la frustration, c'est qu'on ouvrait quelque chose de nouveau, différent avec l'épisode 8 et on l'a complètement refermé avec l'épisode 9. Bon, tout le monde en a parlé des millions de fois, mais sur la question de l'épisode 8, tu vois, le fait d'utiliser des personnages existants, comme on le fait avec Obi-Wan Kenobi, ou même avec d'autres éléments, comme avec d'autres créations comme Boba Fett, pour moi, c'est pas forcément gênant. J'aimerais bien qu'ils aillent explorer d'autres choses, comme avec le Mandalorian ou d'autres trucs, mais c'est pas forcément gênant, parce que je trouve que dans l'épisode 8, par exemple, Luke, il est hyper intéressant. Et on va pas faire tout l'épisode sur l'épisode 8, mais Luke, qui est dans une position hyper compliquée au début de l'épisode, ça veut pas dire qu'il faut forcément le pervertir et le faire tomber de son piédestal, machin. Au contraire, à la fin de l'épisode 8, Luke, c'est l'un des plus grands héros de la galaxie. Enfin, c'est celui qui sauve encore la situation, c'est complètement le héros, mais il l'amène d'une manière qui est vraiment intéressante. Et je dirais même que la situation de Obi-Wan qu'on a dans les premiers épisodes, d'ailleurs, qu'on l'a peut-être déjà dit, on a déjà peut-être fait le parallèle, mais elle est de la même manière relativement intéressante. La fin avec Anakin, je trouve qu'elle est intéressante et on va en parler dans une seconde. Mais donc, moi, ce n'est pas le fait qu'ils réutilisent forcément les mêmes personnages. J'aimerais bien qu'ils utilisent de temps en temps les mêmes personnages et de temps en temps d'autres et qu'ils s'écartent de la tradition. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont utiliser les mêmes personnages que je vais me dire « Ah ben, c'est forcément perdu d'avance ». Par contre, souvent, clairement, on a des choses qui sont un petit peu trop fades parce que, alors, ma théorie, c'est que ça colle trop à ce qui a été établi par le passé et ils n'essayent pas assez de choses. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus et j'espère qu'à terme, ils vont exploiter cette richesse de l'univers Star Wars avec des choses un petit peu différentes, quoi. Tu veux parler de l'épisode 4, du coup ?
Alors, bah, du coup... Alors, l'épisode 4, je crois que c'était globalement un peu le plus faible. Hein.
C'est celui où ils vont sur la... C'est celui où ils vont sur la base secrète de Dark Vador et qui rentre avec une moustache, c'est ça ? Je crois que c'est celui-là.
C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en souviens bien. Alors, tu vois, pour le coup, moi, j'aime... Alors, ça, c'est un truc que je vais dire globalement sur toute la série et que c'est assez valable pour celui-là. J'aime beaucoup, moi, les décors de la série, les lieux, les décors. Je sais qu'il y a une critique comme quoi la série serait très cheap et tout ça. Alors, c'est probablement vrai, mais je trouve qu'il y a quand même un effort, en tout cas, niveau réalisation, de mettre ces lieux-là en avant, enfin, en valeur. Et j'aimais beaucoup, moi, ces couloirs, je sais pas comment dire, de l'Empire, là, machin... d'infiltration, bon alors c'est évidemment c'était assez ridicule hein. Je sais plus comment elle s'appelle qui parle dans son talkie-walkie avec les mecs à côté
c'était Riva non la méchante
non bah, Riva,
ah,
c'est la
gentille
méchante, mais,
oui.
La gentille c'est ça la gentille qui s'infiltre machin
Non, mais ça continue la tradition de cette série de faire des trucs complètement ridicules comme la course où ils essayent d'attraper Leia, genre dans les épisodes 1 et 2. On est au même niveau. Alors, ils essayent ensuite de rattraper les courses-poursuites en disant que Riva les a laissés partir. Et du coup, oui, c'est vrai. C'est complètement... Elle a donné des instructions aux gens de dire « Bon, il faut les laisser partir parce que j'ai le tracker. » Je trouve que ça tient. Mais dans l'ensemble, oui, c'est vrai que l'épisode est un petit peu ridicule dans sa construction, quoi.
Ouais, je sais pas si c'est dans cet épisode-là où on comprend, on va dire, les motivations de Riva ou c'est celui juste après.
C'est celui d'après.
D'accord. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à. En fait, le problème de cet épisode-là, c'est qu'il sert.
Il sert
un peu à rallonger la sauce, quoi. Hein. Il sert à faire des péripéties parce que effectivement, la suite de l'intrigue, elle se passe dans les épisodes d'après.
Oui, t'enlèves cet épisode, ça change pas grand-chose, quoi. Si au lieu d'avoir attrapé Leia et de l'avoir emmenée à la base de Dark Vador, elle l'avait pas attrapé et tu sautes direct à l'épisode 5, rien n'a changé, quoi.
Donc, c'est ça.
Du coup, passons à l'épisode 5. L'épisode 5, c'est quoi ? On revoit Kenobi et Anakin se battre il y a des années et des années. Oh, tu vois, ça me fait bâiller rien que d'évoquer cet épisode. Mais, et puis là, c'est le siège de la base du PAF, du chemin des rebelles, quoi. Rien que ça, tu vois, ils auraient pu dire que c'était la résistance. Pourquoi t'as besoin de dire c'est de paf, c'est un autre truc, c'est le début de la résistance. Dans l'épisode 4 là, des films, la résistance, elle est établie. Tu pourrais dire qu'elle a commencé. Et évidemment, ça fait 10 ans que l'Empire existe. Pourquoi ne pas dire c'est le début de la résistance là. Peut-être qu'il y a une histoire dans le lore et le canon des livres et des BD, je sais pas, qui dit que c'est autre chose, la résistance. Mais bref, bon, peu importe. C'est la base en question. Et il y a le siège avec Riva qui est là avec plein de Stormtroopers et qui attend ils essayent de rentrer. Il y a la gentille, comment elle s'appelle, Tala, qui se sacrifie. Et puis finalement, tu vois, elle a son sabre laser pour ouvrir la porte. Elle pourrait le faire en à peu près 14 secondes, mais elle attend. Et puis elle dit vous allez bientôt sortir et vous ne pourrez pas tenir longtemps. Et il y a Leia qui essaye pendant combien de temps ? 4 heures. Elle bouge deux fils. Elle est dans un endroit pour essayer de faire ouvrir la porte. Et genre, elle bouge un fil. Ah bah non, c'est pas là. Elle bouge un autre fil. Bon, bref. Et puis, évidemment, la partie la plus intéressante, la conversation entre Riva et Kenobi, où on apprend que Riva était une des jeunes qui a été agressée par... qui dans le massacre qu'a perpétré Anakin. Et donc, en fait... Elle l'aime pas du tout, elle veut le tuer. Et donc Kenobi utilise cette, euh, cette haine pour s'échapper en provoquant un conflit ridicule entre Reva et... Mmh. Enfin, ridicule. Non, c'est pas vrai, il n'est pas complètement ridicule, mais la fin est ridicule, genre, oh, on t'a tué, mais tu n'es pas morte, mais on va partir quand même sans te tuer, parce qu'on s'en fout. Et le reveal du grand inquisiteur qui n'était pas mort, alors que... Enfin, elle l'a laissé pour mort, on est d'accord. Il n'y a même pas besoin d'explication. C'est genre, ah, la haine non. est une grande motivation pour ne pas mourir. Bon, bah, ok. Bon, en même temps, elle ne meurt pas non plus parce qu'elle a cette haine qui l'anime, peut-être, mais...
Personne ne meurt.
Personne ne meurt. Voilà. À part Tala. Tala, elle meurt. Ouais, donc cet épisode, qui est quand même, je dirais, moins oubliable que le précédent, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Bah alors, du coup, c'est là où justement on fait monter la sauce plutôt vraiment côté Dark Vador, enfin la relation Anakin et Obi-Wan. Du coup, ça m'a fait un peu bizarre de les revoir parce que c'est un celui-là où au tout début il y a le flashback.
Ouais, tout à fait.
C'est ça le flashback où ils se battent. Alors, moi, à chaque fois, ça c'est un truc, c'est un truc que je reprochais déjà à la prélogie. C'est que. Anakin, c'est quand même des red flags tout le temps, quoi. C'est-à-dire que son glissement, on va dire, sur la mauvaise pente,
vers le côté obscur,
je veux dire,
c'est pas subtil.
c'est pas subtil. Et du coup, ce côté, justement, tu sais, pour dire à la fin que non, c'est Obi-Wan, ce n'est pas de ta faute. Si, Obi-Wan, c'est de ta faute. c'était évident qu'il y avait un souci. Je veux dire, tous les Jedi, ils ont tout ce truc. Il est trop jeune. Il y a tout quand même un certain nombre de règles pour s'assurer, que ça n'arrive pas. Et à chaque fois, ils sont allés à l'encontre de ce truc-là. Et ben, résultat, voilà.
À un moment, faut prendre ses responsabilités. ça va quoi. Ouais. Tu peux pas. Oui, tu avais des bonnes raisons, mais quand même, voilà le résultat.
Ouais. Donc du coup, il y a ce combat où Anakin est super agressif. Et bon, après, je sais pas toi, toi qui aimes pas trop la prélogie, de revoir cet acteur-là dans ce rôle-là, toi, est-ce que ça t'évoque des choses ? Ça caresse, on va dire, quand même, dans le sens du poil, les jeunes comme moi qui ont, j'ai pas découvert Star Wars avec l'épisode 1 et 2, mais ça fait vraiment partie du moment où je suis devenu vraiment fan de Star Wars, quoi. Donc, tu vois, j'ai trouvé ça cool, mais en même temps, je trouve ça toujours malhonnête, ce genre de procédé, quoi, parce que c'est facile, tu vois.
Ouais, moi, ça me dérange pas. Je trouve que la scène n'est pas non plus incroyable, mais le fait qu'on revoie Christensen, qui, à mon avis, bon, est peut-être pas le meilleur acteur de la Terre, mais a aussi été particulièrement desservi par le travail de Lucas sur la prélogie, et les dialogues qui sont assez lamentables. Et puis, tout le monde en a beaucoup parlé, mais le travail avec les écrans en vert et de CGI qui faisait que les acteurs devaient travailler avec dans le vide, évidemment, c'est pas facile. Mais donc, je sais pas s'il est bon acteur ou pas, mais je trouve que clairement il a été maltraité malheureusement par le cinéma. Et le fait de le revoir, moi ça me gêne pas, au contraire. Je me dis, il y a une sorte de rédemption du personnage mêlé à l'acteur qui est possible. Et si c'est pas éclatant, c'est pas non plus complètement raté. Donc, moi, ça me plaît de le revoir. C'est bizarre parce qu'ils n'ont pas tellement rajeuni, je crois, le type, alors qu'il a l'air beaucoup plus âgé, je crois, que dans la prélogie.
Alors, il y a eu des petites interviews, tu sais, comme ils font Disney+, mm-hmm. de temps en temps, quand ils sortent des séries, il y a des petits clips où ils font venir les acteurs pour parler un peu de la série, quoi. Et du coup, ils font venir à la fois Evan McGregor et Christensen au même endroit. Donc, Evan McGregor a plus sa barbe, parce qu'il est complètement rasé. Et Evan McGregor fait plus jeune que
Christensen.
Aiden, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, il a quand même pris un bon coup d'œil.
Mais du coup, là, pour répondre à ta question spécifiquement, non, la scène, je l'ai trouvée bien. Et puis oui, ça fait forcément un petit... Tu vois, c'est une corde qui est facile à tirer, quoi. Même si t'as détesté le personnage, même si t'as pas aimé les films, bah, le fait de le revoir, c'est quand même... Anakin, il y a une histoire qui est en son cœur plutôt intéressante, qui est la corruption du bien par le mal. Voilà, c'est classique. Et oui, moi, je trouve que ça fonctionne. Ça m'a fait. Je dis pas que
ouais. Ça m'a... C'est éclatant, mais c'est bien. Et après, pour la partie... Pour la partie Reva, oui, c'est ça, Reva, bah, c'est un peu cousu de fil blanc, quoi. Le côté,
Ouais, bah, disons
voilà,
que
le côté, ouais.
Je comprends tout à fait enfin, le fait qu'elle ait fait partie de des jeunes Padawan qui ont été massacrés par Anakin, et tu vois le traumatisme, tous ses amis ont été coupés en deux par leur aîné devenu complètement fou et qui est venu les massacrer, mais enfin c'est un traumatisme terrifiant. Et elle s'est cachée au milieu des corps pendant des heures pour essayer de survivre. Évidemment, enfin le personnage, c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui est justement nouveau dans Star Wars, qui utilise complètement les bases de l'histoire de Star Wars, qui est fidèle au canon de Star Wars. Donc je trouve que c'est assez bien trouvé. Ce qui me dérange, c'est, et tu vois le fait qu'elle se dise je vais faire partie de l'Inquisition, je vais réussir à me rapprocher de Vador suffisamment pour finir par le battre. Ce qui me dérange, c'est que c'est l'ambition et le rêve de sa vie. Elle a tout sacrifié pour ça. Elle a même plus que flirté avec le côté obscur pour ça. Et on comprend pourquoi elle voulait tellement récupérer Obi-Wan Kenobi, parce qu'elle savait que ça lui donnerait accès à Skywalker. Mais là, tout à coup, quand on lui dit c'est maintenant, tu vois, au milieu de l'armée de Stormtroopers, et enfin, elle n'est pas préparée, elle n'a pas, je ne sais pas, il faut un minimum. S'il suffisait de prendre ton sabre et de taper, tu vois, d'essayer de mettre un coup à Vador, elle aurait pu le faire il y a 5 ans. Et c'est ça qui me gêne plus dans l'histoire. Et puis, on en parlera après, mais la suite de ce qu'elle fait, je ne comprends pas trop, quoi, pourquoi elle veut aller tuer Luke. Peut-être que j'ai raté un truc, mais...
Elle veut se venger, elle veut... Voilà, mais bon, bref.
Mais enfin, se venger de quoi ? Elle ne sait pas que c'est le fils de... Que c'est le fils de Anakin. Donc, personne ne sait. Elle l'apprend avec... D'accord. Mais enfin, bon, ok. Mais peut-être qu'elle pense qu'il a un fils et que du coup, elle se dit, je vais tuer son fils pour le rentrer triste. Ok, bon, ça, ok, d'accord. Ouais, okay.
Mais effectivement, enfin, je veux dire, pareil, hein, quand elle essaie de donner le sabre et qu'elle rate, c'est un peu ridicule, quoi. Je veux dire, tout ça pour ça. Et effectivement, j'aurais aimé que ce personnage-là soit peut-être plus au centre de cette fin de série, parce que Dark Vador vienne reprendre la main comme ça, et puis après, finalement, pouf, et c'est fini, quoi, limite. Bon, après, effectivement, il y a cette histoire avec Luke, mais comme tu le dis, on comprend pas. Enfin, je veux dire, c'est pas super clair, quoi, ce qu'elle essaye de faire, et puis, je veux dire... On spoil hein, de toute façon, donc je vais le dire tout de suite, mais elle va épargner Luke après tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Il n'y a pas trop de sens à tout ça, en fait. C'est un peu peut-être bâclé. Alors, les mêmes actions auraient pu faire sens si ça avait été peut-être mieux amené, mais globalement, ces deux derniers épisodes sont quand même assez confus au profit de certains éléments clés un peu cool, comme ce qu'on a déjà évoqué. Mais cette partie Reva, du coup, c'est un peu dommage, quoi. Elle passe au second plan et toutes ses actions passent un peu dans le flou, soit dans le ridicule. Donc c'est ça qui m'a principalement gêné sur cette fin de série, quoi.
Moi, ce que je dirais sur Reva, c'est que je trouve effectivement que c'est un personnage hyper intéressant et que je pense qu'il aurait pu être intéressant d'avoir une série sur elle. Tu vois, une série pareille en 6 épisodes sur son parcours, et puis on découvre qu'en fait, on se dit, on va avoir une histoire sur une inquisitrice, et on découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait, non, elle était machin, et oui, on sait que les inquisiteurs, c'est des anciens Jedi qui ont rejoint le côté obscur, et on découvre son plan, et puis elle essaye, et puis elle réussit pas, et puis finalement même, elle essaye d'aller se venger sur Luke avec un truc qu'elle apprend, même en dehors de toute l'histoire de Obi-Wan, hein. Et donc on a le petit caméo à la fin de Luke qui fait plaisir aux fans, et finalement, la résolution de son parcours, c'est que elle a rejoint le côté, tu vois, la rédemption, machin, c'est classique, mais c'est un parcours intéressant. Là, on a le personnage de Reva qui est encore utilisable, et j'imagine qu'on pourra peut-être le revoir à un moment, mais il est plus intéressant. C'est quoi le personnage de Reva ? C'est juste un gentil Jedi. Pouf, ok, voilà, c'est terminé la partie. Alors peut-être qu'ils trouveront d'autres choses à faire avec. Hein. Elle est torturée, elle est je sais pas quoi, parce qu'elle a fait clairement des choses qui n'étaient pas super top. Mais je veux dire, cette histoire-là était hyper intéressante. Et c'était complètement un truc sous-exploité et mal exploité qui, du coup, maintenant, est un petit peu gâché, quoi. Donc, voilà encore un exemple d'un truc intéressant qu'on aurait pu voir dans l'univers de Star Wars qui respecte le canon et qui aurait été un petit peu différent. Et là, c'est utilisé comme support boiteux d'une autre histoire qui du coup, elle non plus n'est pas complète. Donc, bon.
Ouais.
Donc ça, c'était l'épisode 5. On peut passer à l'épisode 6, peut-être.
Ouais. Bah,
donc l'épisode 6, la partie Reva et Luke, je crois qu'on en a déjà parlé. Hein, c'est le B-plot de cet épisode. Mais le A-plot, donc l'histoire principale, c'est clairement Anakin contre
Obi-Wan.
Voilà, j'oublie son nom. Donc Obi-Wan, il part du vaisseau qui s'échappe. Entre parenthèses, j'ai beaucoup aimé la partie où il y a un vaisseau qui s'envole et Dark Vador l'arrête. C'était, tu vois, tu sens la puissance et la parce que dans l'ensemble, dans toute la série, Dark Vador, il est quand même. On dit en arabe, on dit un ma'attar. Un ma'attar, c'est le pauvre mec qui est posé là, qui fait pas. Enfin, tu te dis, le pauvre quand même, il fait pas grand chose. Il est juste posé là et on vient lui dire, Lord Vador, j'ai réussi à trouver les rebelles. C'est très bien. Vous êtes vraiment très fort, mon inquisiteur. Allez les choper. Et puis, deux secondes après, on a perdu les rebelles. Comment ? Vous avez perdu les rebelles. Si vous ne les retrouvez pas, votre punition sera terrible. Tu vois, il est juste là en train de dire, faites ci, faites ça, il ne fait rien du tout. Là, il arrive dans la base, il y a le truc qui décolle, il l'arrête et tu te dis, c'est le genre de truc, le pouvoir de la force incroyable. Et il le ramène au sol. Et l'autre qui part après, tu ne t'y attendais pas. C'était, c'est deux secondes de la série, mais j'ai trouvé ça bien. Oui, merci, t'es d'accord avec moi.
Oui.
Bref, Obi-Wan quitte le reste des rebelles, je vais les appeler rebelles parce que c'est ce que c'est.
Oui, et, c'est très bien.
Et Dark Vador le suit et ils arrivent sur la planète. Comme toujours, quand t'atterris sur une planète, comme par hasard, ils atterrissent pas genre un à New York, l'autre à Budapest, tu vois. C'est vraiment, ils atterrissent à 2 mètres l'un de l'autre. Bon, ils le suivaient, mais quand même. Et il y a cette confrontation qui est le point central, non seulement de l'épisode, je pense, mais de la série aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tournant, ou pas tournant, mais de ce cœur de la série ?
Moi, ce duel-là, je le trouve très, très chouette, visuellement en tout cas. J'étais déjà, on va dire, j'étais déjà en dehors de la série, en fait. À ce moment-là,
elle t'avait perdu.
Elle m'avait un peu perdu et justement elle a réussi à me rattraper sur la toute fin quoi où il y a ces échanges où les choses sont dites quoi en fait où il y a ces fameuses phrases de Anakin dont je pourrais les redire en moins bien
de laquelle tu parles, je me souviens plus exactement
la phrase où il dit je ne suis pas ton échec, c'est moi qui ai tué Anakin.
Ah oui, d'accord, oui.
Et où du coup, c'est là que Obi-Wan va tirer cette conclusion de ok, Anakin est mort, et c'est Dark Vador qui l'a tué, et c'est ce qu'il dira à Luke dans le premier film, quoi, où il dit j'ai connu ton père, il a été tué par Dark Vador. Enfin, tu vois,
ça colle,
raccroches, ça raccroche, on va dire, à ça, et je trouve que la scène, la façon dont elle est filmée. L'intonation des punchlines, etc. Je trouve que c'est vraiment là, on est vraiment dans l'excellence à ce moment-là de ce que peut faire Star Wars. Mais malheureusement, tout ce qu'on a dit avant vient un peu gâcher ça, quoi. Ça atténue fortement l'impact que ça aurait dû avoir normalement, quoi.
Ouais. J'ai trouvé bien aussi, clairement, la confrontation. Et puis, je ne pensais pas qu'ils iraient si loin, en fait. Je pense que quand on a appris qu'il y aurait une série Obi-Wan, on s'est dit, ils ne vont pas... ils ne vont pas mess with la relation Obi-Wan-Anakin. Et en fait, ils y vont à fond. Et je trouve qu'au final, ça fonctionne. Et on a aussi toute cette ambiguïté où on a, je ne sais pas si tu as remarqué ou si tu en as entendu parler, les jeux de lumière entre le rouge côté Sith et le bleu côté Jedi. et avec ses jeux. Et quand on voit le visage d'Anakin, il est éclairé en bleu, et le reste du masque de Dark Vador est éclairé en rouge. Donc, c'est bon, c'est pas du grand cinéma, mais c'est poétique, ça fonctionne.
Non, mais ouais, moi je trouve que ça fait partie vraiment de... C'est à ça notamment que je pense quand je dis que, en termes de réalisation et de visuel et de mise en valeur... De tout ça, malgré peut-être un budget qui paraît un peu cheap, et ben on est là dedans. Pour moi c'est vraiment du très très bel ouvrage en fait en termes de cinéma, quoi. Je veux dire, et alors oui, on peut dire que c'est un peu too much ou quoi, mais moi cette scène là elle est superbe, quoi, visuellement, esthétiquement, grâce à ces jeux de lumière, etc. Donc non pour moi c'est vraiment très très bien, quoi.
C'est Chang Hu Chang qui est le chef op qui a fait donc toute la lumière, et c'est Deborah Chow qui est la réalisatrice, donc c'est elle qui a réalisé. Donc elle a bien réussi son coup, je trouve aussi. Un truc que j'ai apprécié, c'est... Alors, la raison pour laquelle Dark Vador ne continue pas à poursuivre Obi-Wan, c'est que une fois le combat terminé, il revient, je ne sais plus, dans sa base ou... Il parle à l'empereur et l'empereur lui dit « Mais arrête tes conneries avec Obi-Wan, tu as laissé échapper les rebelles, c'était ça la priorité, est-ce que tu es sûr que loyauté est envers moi ?» ou parce que là je suis... Et donc tu peux te dire « Bon, bah, c'est pour ça qu'il arrête d'attaquer Obi-Wan. » Et en même temps, en sous-texte, je trouve, on comprend un petit peu, peut-être... qu'il n'y est pas allé à fond, qu'il n'était pas... Tu vois, on sent le conflit, ça fait lire le conflit entre Dark Vador et Anakin. Et peut-être qu'il voulait Obi-Wan, mais il ne le voulait pas vraiment, et puis il n'a peut-être pas continué parce que, d'une certaine manière, il s'est dit « Bon, bah, ça fait deux fois que j'ai perdu, je ne vais pas encore me faire ridiculiser. » Non, je veux dire, peut-être qu'il n'était pas aussi à fond qu'il le laisse penser. Ou, je sais pas, il y a une sorte de sous-texte de conflit qui fonctionne là aussi. Et le combat, oui, le combat, je l'ai trouvé très bien, c'était assez jouissif. La scène, le plan... où Obi-Wan fait lever toutes les pierres, c'est évidemment... Ah, il est trop... C'est le plan badasserie qui fonctionne quand tu as un personnage avec des motivations derrière. Bon, il y a quand même, comme toujours dans Star Wars, pourquoi est-ce que Dark Vador ne s'assure pas d'avoir tué Obi-Wan quand il l'ensevelit, là ? Parce que... Et pourquoi est-ce que, quand il a la conviction que Dark Vador a tué Anakin... Pourquoi est-ce qu'il ne le finit pas ? Je comprends que lui aussi, il est un petit peu... mais là, c'est vraiment le catalyste. Et on se dit, c'est bon, il a tué ton Padawan, tu as accepté que c'est devenu quelqu'un d'autre. C'est un immense danger pour la galaxie. Il a massacré des dizaines de Padawan, il a tué des centaines de Jedi. À un moment, j'avais pas l'impression que les Jedi, justement, d'où vient Anakin, ils n'hésitaient pas non plus à faire ce qu'il fallait quand il fallait. Bon, évidemment, s'il l'avait tué, il n'aurait pas été dans l'épisode 4, donc c'était un problème. Mais, tu vois, ça, c'est un petit peu boiteux aussi, j'ai trouvé.
Oui, ouais, complètement. Bah, après, effectivement, bon, ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on est censé, tu sais, ça fait partie des choses qui sont relativement... C'est pas non plus scandaleux, et du coup,
oui, oui.
C'est censé passer sous la... Voilà, sous
je suis d'accord, la, je suis d'accord. Pinaille, de, je... Voilà. Je suis d'accord. Mais ouais, du coup, cette scène, disons que si toute la série avait... Je pense que vraiment, la série aurait dû se concentrer sur un truc, quoi. Plutôt que de faire à la fois Leia et Riva et le Paz qui n'est pas les rebelles et Luke quand même un petit peu, parce qu'à la fin, ça parle de Luke. Et enfin, ils auraient pu explorer plus un élément. Je ne dis pas ne pas du tout avoir les autres, mais se concentrer sur l'un d'eux plutôt que d'avoir tous en parallèle qui se battent pour l'attention du spectateur et surtout l'attention de l'histoire, quoi. Et au final, effectivement, cette scène est sympa, cet épisode est plutôt pas trop mal, mais comme on le dit depuis le début, ça ne réussit pas à relever le niveau de l'ensemble de la série, qui, même s'il n'est pas désagréable... Enfin, j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de mal de la série depuis le début. C'est pas... Comment dire ?
C'est pas scandaleux, voilà.
C'est pas mauvais, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment, moi.
Ouais, moi non plus. Alors, comme j'ai regardé un peu les trois derniers quasiment d'affilée, bah, j'ai trouvé quand même un peu le temps long, quoi, finalement. Mmh. Je pense que je l'aurais mieux encaissé si je l'avais fait correctement mes devoirs en regardant chaque semaine.
Ouais. Mais du coup, tu l'oublies encore plus. Hein. Chaque semaine, je peux te dire que l'épisode 4 que j'ai vu il y a 3 semaines, j'ai vraiment dû regarder le résumé pour me souvenir de quoi il s'agissait, quoi. Mais ouais.
Ouais, bien sûr.
Mais ils bon, sont chez coup, moi, en fait, les oiseaux, je suis con. C'est chez moi, les oiseaux qui gazouillent.
J'en avais aussi, mais j'entends les tiens aussi.
Ah oui, d'accord. Bon, les oiseaux partout. Ouais, et puis...
Mais du coup, Star Wars, mitigé, quoi, quand même. Et je sais pas, c'est quand la prochaine... Il y a une prochaine série Star Wars qui est censée arriver, je sais plus quand est-ce que c'est, mais ça doit être bientôt. Mais du coup, je suis moins là. Je suis petit à petit, à force d'encaisser un peu les trucs un peu moyens ou voilà sans plus. Bah moi, ça, voilà, le côté Star Wars, je vais l'attendre un peu peut-être de moins en moins. Mes attentes vont un peu se tasser quand même.
Ouais.
Je sais pas jusqu'à quand, mais on verra peut-être que ça sera très bien et qu'ils vont se relancer sur la suite.
Ouais, peut-être. Bah écoute, tu sais quoi, on va aller explorer des trucs un petit peu différents dans les prochaines séries. Il y a Andor, Ahsoka, qui arrive, je ne sais pas quand, mais qui arrive bientôt. Alors, ça arrive fin août, Andor,
ah oui.
Et Ahsoka, c'est en 2023. Donc, après, il y a Skeleton Crew, The Acolyte, Lando. J'imagine que c'est Lando Calrissian. Bon, ok. Mais tu vois, il y a des trucs qui vont s'éloigner un petit peu de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc, Andor, je suis pas. Enfin, c'est le personnage de Andor de Rogue One, Cassian Andor. Moi, je suis pas un super fan de Rogue One, donc bon. Mais pourquoi pas, hein, peut-être que ça sera bien. Ahsoka, bon, c'est une Jedi, et puis elle était cool dans... c'était quand dans Boba Fett ou dans Mandalorian 2?
Non, c'était dans Mandalorian 2. On la voit aussi dans Boba Fett, mais
très peu, ouais.
Mais c'est dans le contexte Mandalorian.
C'est ouais. Ça. Et puis Rosario Dawson, elle était très bien. Moi, je la connais pas de la série animée, mais bon, je l'ai trouvée bien. Mais oui, donc ça arrivera. Je t'avoue que c'est un petit peu pareil pour moi. C'est... Comme vous l'avez compris, je ne suis pas un méga nerd fan de Star Wars. Mais là, du coup, je suis un peu refroidi. Un petit peu, et là, on fait un petit écart MCU de 2 secondes. J'ai vu Doctor Strange et le Multiverse of Madness avec ma femme il y a 2 jours. Et elle, je crois qu'elle en a fini du MCU, quoi. Alors, ce n'est pas une fan de comics hein, à la base, mais elle a regardé les 10 premières années avec beaucoup de plaisir. Et puis, depuis Endgame, alors, au cinéma, on n'a quand même pas été gâtés, quoi. Il y a eu Black Widow, The Eternals, que j'ai bien aimé, mais c'est pas le genre de truc que je recommande à des gens qui n'aiment pas les comics. Shang-Chi, pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je ne suis pas sûr que ça soit... Disons que si Shang-Chi était au milieu d'autres films bien... Ça passe. Là, comme c'est avec ça et Doctor Strange et Spider-Man, No Way Home, qui, encore une fois, c'est des films qui plaisent à un certain public, mais je crois que c'est pas du tout le même public que les films qui ont fait le succès du MCU à l'origine, qui pouvaient plaire à tout le monde. Là, on est dans des films de nerds, de fans de comics, et même si moi, j'y prends du plaisir, je comprends que ma femme, par exemple, c'est plus son truc. On va voir avec Thor Love and Thunder, mais elle m'a dit non, c'est bon, je crois que
c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que depuis l'après Endgame et puis avec les séries et puis les nouveaux films, on se rapproche beaucoup, on va dire, des comics et on sera d'un public effectivement probablement d'un public plus comics, avec notamment, je pense particulièrement aux costumes. Tous les costumes qu'on a vus depuis sont tous quasiment des costumes très très comics, quoi, un peu à la limite, alors qu'avant il y avait un vrai effort pour rendre ça super crédible, super on va dire ancré dans un monde un peu réaliste. Là on est plus trop dans ça, on part dans le cosmique, les dimensions, la magie, avec des costumes un peu chatoyants, un peu plus
bah, c'est une bonne,
un peu plus proche des comics.
Les costumes, c'est une bonne allégorie pour le reste des éléments de ces films, que ce soit l'histoire, le propos, la réalisation. c'est des, oui, c'est des trucs pour fans de comics, quoi. Et la grande force de ceux d'avant, c'est que c'était des... Alors, vous savez à quel point j'aime le MCU, mais c'était des vrais... C'était des bons films pour certains. C'était juste des bons films, en dehors du fait que c'était des trucs de comics. Et moi, j'espère qu'avec la phase 5, là, ils essorent la phase, avec la phase 4, donc ce qui leur reste des phases précédentes. Et j'espère qu'avec la phase 5, ils vont faire des trucs avec les 4 Fantastiques, les X-Men, et que ça va revenir un petit peu, peut-être. Peut-être même qu'à la fin de la phase 4, peut-être avec Quantumania ou quoi que sais-je, ils disent « Ok, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, terminé. » Peut-être pas tous les personnages, hein, mais peut-être un gros reset qui dise « Oui, il y a eu tous ces personnages, il y a eu tous ces trucs, mais maintenant, les histoires de multivers, vous savez que je ne suis pas fan, terminé. Et on repart à zéro, pas complètement à zéro, mais les histoires à venir, ça va être des vraies origin stories avec un autre groupe, avec un autre, presque un autre univers, presque. C'est pas ce que je veux, un autre univers. Je veux qu'on garde l'héritage de Tony Stark et de Captain America et tout ça. Je veux qu'on garde, mais qu'on repasse sur des bases un peu plus saines, parce que je trouve que, comme je le disais, Black Widow, Eternals, Shang-Chi et Doctor Strange et Spider-Man, c'est quand même pas la gloire du MCU de l'époque, quoi. Comment dire ? Encore une fois, c'est orienté fan de comics. Et la force du MCU, pour moi, c'était d'aller chercher plus loin en restant fidèle aux comics. Donc, bref, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais du coup, le parallèle avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de finir par se dire « Bon, bah ok, le MCU, c'est peut-être plus pour moi. » Et c'est pas un problème, hein, comme je le dis souvent. On aura toujours ces 10 premières années, ces 23 premiers films qui sont un tout incroyable. Et c'est pas grave s'ils font d'autres choses après. Mais je pense que ça commence à perdre des gens, peut-être. Même si, bon, encore une fois, ils font beaucoup d'argent au cinéma, donc les gens vont les voir toujours. Mais des gens comme ma femme, qui sont moins clients à la base, sont peut-être un petit peu moins happés. Et là, avec Star Wars, bah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'utiliser toute leur vie, tu vois, toute leur chance. Au bout d'un moment, tu vas plus être aussi En même temps, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que moi je dise... Une nouvelle série Star Wars, je vais juste pas regarder. Ou une nouvelle série, même un nouveau film Marvel, je vais pas regarder. Non, moi, ils vont me garder. Donc, bref. Toi, tu te vois une nouvelle série Star Wars, là, ne juste pas la regarder ?
Franchement, ouais.
Ah ouais ?
Franchement, ouais.
D'accord. Là, même pas là, genre... regarder un épisode et puis oublier parce que c'est relou, je peux comprendre, mais tu regardes au moins le premier épisode, non ?
Oui, je pense, oui, ça c'est certain. Okay. Star Wars, je vais lancer le premier épisode, mais je pense que s'ils m'ont pas vraiment hook et que j'ai pas de podcast à enregistrer, je suis pas certain de rester assidu. Bah, d'ailleurs, moi je vais te dire, Mandalorian, j'avais regardé les trois premiers épisodes à l'époque, et je n'ai plus regardé de série. Je n'ai rattrapé mon retard que à la toute fin de la saison 2. Quand les gens ont fait « Oh mon Dieu, ne spoilez pas la fin de saison 2 de Mandalorian », tout ça, enfin tu vois, y a eu tout un truc sur Internet par rapport à cette fin de saison 2, et du coup je me suis dit « Bon allez, on va... »
C'est vrai, mais pourtant Mandalorian, on disait que c'était la bonne série de Star Wars, elle t'avait pas plu.
Mais moi j'avais été super accroccé au premier épisode, et puis le deuxième j'ai trouvé ça sans plus, et puis du coup... Dans le flux de la vie, j'avais juste oublié de regarder la suite, et puis ça ne m'avait pas manqué. Voilà. Et puis voilà, quoi, j'étais passé un peu à autre chose. Et c'est en revoyant tout, où je me suis dit, ah, mais c'était trop bien, et tout ça, tu vois. Mais...
Ah, donc
en
fait, t'as aimé au final.
J'ai aimé. Oui, d'accord. En fait, ça, c'est un truc... Déjà, moi, je ne suis pas très série. Hein. J'ai beaucoup de mal à regarder des séries. Alors bon, le MCU, ça s'ancre dans quelque chose d'un peu plus particulier, donc je regarde tout, mais voilà. Moi, j'ai besoin qu'on m'accroche vraiment... Vraiment, quoi. Et du coup, là, Star Wars, je sais que ils avaient plein de projets de films au cinéma qu'ils ont un peu laissé tomber parce que les dernières trilogies étaient un peu compliquées pour le public. Je pense que Disney a quand même conscience qu'il faut garder un certain standard au cinéma pour Star Wars. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre le paquet sur les séries télé en essayant de voir ce qui accroche ou pas. J'espère qu'ils vont se rendre compte que ce qui accroche, c'est justement les choses un petit peu nouvelles, quoi. Histoire que quand ils reviennent au cinéma, ils reviennent sans ressortir Luke du frigo et tout ça, quoi.
Ouais, lui, oui, Luc, il sera différent. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse quelque chose qui soit effectivement nouveau, mais respectueux et ancré dans ce qu'il y avait par le passé, comme on l'a mentionné avec le Mandalorian ou un truc avec un personnage comme Riva ou ce genre de choses, ou qui partent complètement sur autre chose. Bref, bon, on ne va pas reparler de Rey et de l'épisode 8. Mais oui, le cycle de Star Wars, en fait, c'est un truc pour enfants, quoi. Et c'est comme ça. Dernière question avant qu'on conclue. Obi-Wan Kenobi, si ce n'était pas pour le podcast, est-ce que tu aurais fini la série ?
Je ne pense pas. Je pense que j'aurais probablement arrêté au deuxième épisode aussi, en fait.
D'accord.
Ou alors je l'aurais regardé, si ma femme le regardait, je l'aurais regardé avec elle, tu vois. Mais j'aurais pas fait la démarche complète. Et je me serais probablement spoilé directement sur les résumés d'épisodes, comme ce que j'ai pu faire avec d'autres séries, pour aller regarder la dernière scène, et puis voilà. Je pense que c'est ce qui se serait passé.
Du coup, les autres séries Star Wars, excuse-moi, j'étends un peu ma dernière question. Bon, tu nous as parlé de Mandalorian. Boba Fett, t'aurais pas regardé. Alors, je pense que...
J'aurais pas regardé. Et avec ce qui se dit sur la série, je serais allé voir les épisodes qui concernent Mandalorian et c'est tout.
D'accord. Ouais. Les séries du MCU... Est-ce que tu les aurais regardées si ce n'était pas pour le podcast ? Parce que, alors là, attention, hein, ça devient sérieux. Ça peut être motif de divorce.
Il n'y a que Moon Knight que j'aurais laissé tomber, je pense. Ouais, tous les autres, je les regarde avec plaisir. En fait, même quand il y a des critiques.
Je crois que Moon Knight, c'est la seule où vraiment, moi aussi, peut-être que j'aurais regardé pour le principe de savoir où ça va, quoi. Mais je suis d'accord, c'est la seule où vraiment j'aurais au minimum dû me forcer. Les autres, je les aurais regardés quand même avec plaisir, parce que les personnages, Et puis même, le niveau n'était pas... Au pire, c'était juste bof, c'était pas désagréable à regarder, quoi.
Ouais, complètement.
Ouais, bon, écoute... comme quoi, on n'est pas des fanboys, hein. On vous parle honnêtement de ce qu'on pense de tout ça. Et du coup, la prochaine fois, a priori, ça sera dans quelques jours, on va vous parler des épisodes, 3 et 4 de Miss Marvel, qui est encore en cours. 3 et 4 ou 5 et 6, je ne sais plus. 3 et 4, c'est bien ça, hein, oui, je ne dis pas de bêtises. Et il y a 6 épisodes pour Miss Marvel, je crois, donc on est au milieu. J'ai réussi à me muter avant d'éternuer. Je suis très, très fort. Podcaster pro. Et du coup, oui, on fera Miss Marvel dans quelques jours. J'espère que ça sera mieux que Obi-Wan Kenobi. Mais qui sait ? Qui sait ? Si ça se trouve, on sera extrêmement déçus. Le suspense est entier. Merci d'avoir été avec moi pour ce moment un peu particulier, Johan. Mais heureusement, tu vois, puisque tu es là, c'est forcément un plaisir de parler de tout ça. Merci, et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut un petit peu plus de Johan ?
On peut me retrouver sur Twitter, @yohant_, où je vais probablement commencer à pas mal parler de Final Fantasy VII, parce que je suis en train de finir le vieux, et je suis en train de tout doucement devenir fan de Final Fantasy VII, à cause du jeu PlayStation 1.
D'accord, voilà. Mais tu veux dire que tu y joues sur... sur le PlayStation Plus Premium machin ?
Oui, après l'avoir acheté sur Steam, sur Switch, je joue finalement sur le PlayStation Premium Extra machin. Ouais.
D'accord, très bien. Eh bien écoute, je suis sûr que j'ai vu d'ailleurs que tu relates tes aventures sur le Discord aussi. Donc, vous pouvez aller trouver ça et d'autres choses et parler des épisodes de Super Laser Punch sur le Discord. Le lien est sur notepatrick.com pour accéder au Discord de la communauté. On parle de tout ça. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On s'amuse bien et les gens sont sympas. Pour ma part, c'est notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et sur notepatrick.com, en plus de tous ces liens, vous aurez les liens vers les autres podcasts que je fais, comme par exemple le rendez-vous tech, où on parle d'actu tech, et le rendez-vous jeu, où on parle de jeux vidéo. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour nos discussions sur Miss Marvel. Ciao à tous.
Oui. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.